Venir avec moi la parole de Dieu, prendre le temps, se prendre du temps et de laisser le temps à cette parole de nous travailler et de passer encore dans nos cœurs. Nous sommes chaque mardi sur les épîtres Paul a adressées à des églises, à des communautés. On a passé un certain temps sur l'épître aux Romains et la semaine dernière, on a commencé à parler des points essentiels de l'épître aux Galates. On va en parler encore un petit peu ce soir. Les Galates, c'est un ensemble de l'église, d'églises, pardon, qui sont là, qui sont affichées. Antioche, rien à voir avec l'Antioche dont nous avons parlé dimanche. Là, il s'agit de l'Antioche de Pisidie. C'est la Galatie, c'est une partie de la Turquie actuelle. Ce sont des églises qui ont été fondées par Paul lors de son premier voyage missionnaire et qui très rapidement se sont trouvées être en sérieux danger auprès de Rome, puisque l'apôtre Paul leur dit, j'éprouve à nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Quand il dit, il vous a fasciné, Galates, d'abord on avait lu ça, mais on ne reprend pas ça ce soir. Je résume pour ceux qui n'étaient pas là, Galates, chapitre 1er. Je m'étonne que vous passiez aussi facilement à un autre évangile. Et il n'y a pas d'autre évangile, même si un ange du ciel ou moi-même vous annonçait autre chose, qu'il soit maudit, puisqu'il n'y a qu'un seul évangile, mais bien sûr dans les termes dans lesquels les apôtres, Jésus l'a transmis, les apôtres l'ont ensuite transmis et enraciné. Et lorsqu'il dit qui vous a fasciné, qui vous a arrêté, cette influence qui est sur vous ne vient pas de celui qui vous appelle. Ce qui, on le sait, c'est juste une formule rhétorique, parce qu'en réalité, on le sait. Ce sont des faux docteurs judaïsants qui venaient enseigner qu'il fallait absolument revenir à l'ombre des choses à venir, aux pratiques de la première alliance. Il fallait toujours rajouter, Christ n'était plus suffisant. Et ce quoi, de qui c'est les faux docteurs judaïsants et de quoi est-il question? C'est de ce légalisme destructeur, les églises, parce qu'elles perdent de vue le message équilibré de la grâce dont on parlait justement dimanche, se trouvent en sérieux danger. Vous êtes péché la grâce, vous êtes séparés de Christ. Et là, on se rend compte que l'apôtre Paul a encore bien plus de préoccupations que pour les Romains. On a vu qu'effectivement, il y a des points doctrinaux similaires entre Romains et Galates. C'est très intéressant de les étudier ensemble, ou là, comme je le fais volontairement l'une après l'autre, parce qu'une fois que les points communs ont été regroupés, on s'aperçoit que l'apôtre Paul va derrière avoir exposé ces points, il va parler justement de la consécration totale et de ses bienfaits, ça on l'a vu. Et puis aux Galates, mais pour nous c'est un cheminement logique, on arrive à la consécration totale et ensuite on arrive logiquement, n'importe quel chrétien devrait comprendre ce que c'est que de marcher par l'esprit. La marche par l'esprit, des fois c'est un commandement qui peut paraître un petit peu mystérieux, mais en définitive, une fois qu'on a bien compris que nous sommes esprit, âme et corps, on a bien compris que notre esprit qui était coupé des choses de Dieu est ressuscité, régénéré par la parole et par le Saint-Esprit, et par mon esprit, l'esprit qui est au-dedans de l'homme, par mon esprit, pas le cerveau, hein, mon esprit, je suis connecté au Saint-Esprit, je suis connecté aux choses d'en haut. Ensuite, il y a quand même la problématique de l'âme et du corps. Le corps avec ses dérèglements et puis avec ses péchés, et l'âme aussi qui a connu ses dérèglements. Parce que eh ben, le péché, ce n'est pas seulement l'adultère, l'alcoolisme et la cigarette. C'est beaucoup plus que ça et c'est beaucoup plus profond que ça. Et ce n'est pas juste quelques dérives corporelles. L'apôtre Paul, les écrits sont clairs. Alors j'ai accepté le Seigneur, je me suis donné, je me suis converti, tout ça, oui, ok. L'âme est sauvée, mais on n'est pas dupe. L'âme est encore tellement imparfaite. Mon corps peut encore être soumis à des tentations, mais il n'y a pas que le corps. L'âme a connu ses dérèglements et elle connaît encore bien des dérèglements dont on a parlé la semaine dernière. Et là, la liste que j'avais mise n'est même pas exhaustive. Beaucoup de chrétiens sont perdus quand, très rapidement après leur conversion, et même des fois des années après, ils observent, ils sentent encore des luttes, des tensions intérieures entre l'esprit, les désirs de l'esprit, et puis en même temps, ces désirs de la chair. Mais là, ce n'est pas la chair, ce n'est pas ce qui recouvre mes os et mes muscles. La chair, c'est les dérèglements de l'âme Et du corps, c'est mon ancienne nature. Et là, on s'aperçoit que dans ce combat entre l'esprit, il y a l'esprit d'un côté et l'autre côté, la vieille nature, le vieux moi, mon ego, le vieil homme. Peu importe les expressions dans la parole, désignent la même chose. Il n'y en a pas, il n'y a pas 50 choses. Il y a l'esprit d'un côté et il y a l'âme et le corps avec leur dérèglement de l'autre. Et la question avec un Q majuscule, c'est va conduire ma vie? Qui va diriger? Qui va prendre le contrôle? C'est une lutte à la vie, à la mort. C'est quoi être mener une vie chrétienne charnelle? C'est une vie chrétienne dans laquelle j'ai confessé Jésus, je me suis donné à lui, je suis sauvé. Mais malheureusement, ce sont les dérèglements, les pulsions, pas seulement du corps, mais de l'âme déréglée qui vont me conduire. Et c'est comme ça qu'on peut avoir des hauts, des bas, l'âme est instable, et puis un jour j'ai de la rancune, un jour j'ai une phobie, un jour j'ai un mauvais sentiment, un jour j'ai une mauvaise pensée, un jour je suis découragé, un jour je suis trop suffisant, un jour je déprime, un jour je suis dans la querelle, un jour j'ai de la prévention. Le Seigneur a prévu quelque chose d'extraordinaire. La nature charnelle, l'ancien moi, est destinée à une seule chose, mourir. La mort à soi. Afin que l'on puisse marcher, c'est-à-dire régler nos vies, marcher par l'esprit, marcher peritao, c'est-à-dire vivre, régler sa vie, se comporter selon l'esprit. Mais il faut absolument qu'on ait pleinement réalisé où se situe exactement le problème en nous. Puis qu'on rentre dans cette réalité du Nouveau Testament, qui n'était pas seulement pour Paul, mais qui est la réalité présentée à chaque disciple, on va en reparler ce soir. L'apôtre Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis aujourd'hui dans la chair, là cette fois-ci chair, c'est dans ce corps, si je vis dans ce corps, eh bien ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et puis on a aussi ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair. Là, c'est la vieille nature dont il est question, le vieil homme, le vieux moi, avec ses passions et ses désirs. Le monde est crucifié pour moi, dit Paul, Galates 6, 14, comme je le suis pour le monde. Je suis mort au monde, le monde est mort pour moi. Et là, il y a une grande, grande réalité spirituelle, c'est de savoir mourir à soi-même. C'est la fin du moi charnel, le vieil homme, l'ancienne nature, tous les dérèglements de l'âme et du corps. Il n'y a, bien-aimé, on avait terminé la semaine dernière avec ça, il n'y a que deux façons de vivre la vie chrétienne. Il n'y en a pas cinq. Soit on marche, c'est-à-dire on vit par la chair, on est chrétien, mais on vit par la chair, ou alors, par l'esprit, comme dit Paul Romain, on apprend à faire mourir les actions de la chair et on marche par l'esprit. Mais c'est l'un ou l'autre. Il y a un combat à la vie, à la mort. Il y en a toujours un qui va vouloir prendre l'ascendant sur l'autre. Je ne peux marcher que par la chair ou par l'esprit. Et toutes les épîtres ne présentent qu'une seule vie chrétienne, au final normale, parce qu'il n'y a rien d'extraordinaire. Marcher par l'esprit. C'est le plan de toute éternité, ça a toujours été. Marcher par l'esprit, c'est la seule vie chrétienne normale. Et puis, ce soir, on va ouvrir l'évangile de Matthieu, on va insister sur la croix, sur ce plan éternel de Dieu, mais qui n'est pas seulement le plan éternel de Dieu pour Jésus, mais aussi pour chaque disciple. Et c'est ce que l'apôtre Paul met en évidence dans beaucoup d'épîtres, notamment aux Galates. Alors, ce soir, on va replonger dans un texte qu'on est censé bien connaître, mais entre le connaître et le vivre, il peut y avoir quelques marches à franchir. On va prendre Matthieu chapitre 16, verset 21. Je vous ai lu aussi une référence parallèle, mais c'est la même chose, hein, 19, 18, 23, on ne va pas le lire. C'est pour que vous ayez aussi l'équivalent dans l'évangile de Luc. Nous, on prend Matthieu chapitre 16, verset 21. Dès lors, pourquoi dès lors? Parce que juste avant, l'apôtre Pierre, alors qu'il est interpellé par Jésus, les disciples sont interpellés par Jésus Viens de faire cette confession extraordinaire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Les disciples, à ce moment-là, vivent un moment crucial. Ils ont réellement bien compris, comparé à tous les autres hommes, à la foule, etc. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es lui. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ça y est, là, ils ont bien compris qui est Jésus. Et à partir de ce moment-là, parce qu'ils ont bien compris qui il est, ça n'aurait pas été possible autrement, Jésus va ensuite leur montrer ce qu'il va faire, et ensuite il va leur montrer aussi ce qui est réservé pour eux en termes d'application spirituelle. Dès lors, à partir du moment où ils ont vraiment bien compris qui est Jésus, le Christ, le Fils du Dieu vivant, ils ont bien saisi sa nature. À partir de ce moment-là, c'est seulement à partir de ce moment-là que Jésus commença à leur faire connaître qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs, des scribes, et qu'il soit mis à mort, qu'il ressuscite le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et lui dit « Ah, Dieu ne blesse, Seigneur, cela ne t'arrivera pas !» Et Jésus, se retournant, dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais ce sont les pensées des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, renoncement, brisement intérieur, mort à soi, ce sont des termes différents, ça désigne la même réalité, il n'y en a pas 50. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, Jésus est en train de dire à ses disciples, vous savez, la croix, elle ne va pas seulement être pour moi, elle sera aussi pour vous, dans mon plan. En application spirituelle et pratique, mais la croix sera pour vous. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, dans l'évangile de Luc, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Et la chronologie des événements et des annonces de Jésus sont identiques dans Matthieu, identiques dans l'évangile de Luc. À dater de ce jour, dès lors, à dater de ce jour, à partir de ce moment, selon vos versions, il y a une marque temporelle. Les disciples, avec Pierre, viennent de vivre un moment extraordinaire de révélation. Quelle joie! Ils n'auront plus besoin de chercher. Ils savent que Jésus est Dieu, qu'il est le Sauveur promis, qu'il est la vérité. Il est là, il les aime. Dieu est incarné, il est venu en chair. Jésus vient de leur montrer un Everest de révélation, il y a un sommet de joie qui est là dans leur cœur. Et comme ils ont bien compris qui il est, maintenant il va pouvoir leur révéler ce qu'il va faire. Il va leur montrer la voie royale. Il va leur révéler le plan éternel. Pierre le comprendra pas tout de suite, mais bien plus tard. Dans sa première épître, il écrira « L'agneau immolé avant la fondation du monde ». Pierre, plus tard, va comprendre, mais sur l'instant, il ne le comprend pas, ce plan éternel. C'est le chemin par excellence. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a qu'un seul Jésus. Pierre, tu l'as très bien identifié, mais il faut que tu comprennes aussi maintenant le chemin par lequel il va passer et ensuite le chemin par lequel il veut faire passer chacun de ses disciples, spirituellement parlant. Parce que ce sont les principes du royaume. Lorsque le diable a voulu la place de Jésus, Ésaïe 14, Ézéchiel 28, quand il a convoité la place de Jésus, en réalité, il ne s'est pas contenté de ce qu'il était, de ce qu'il avait. Pourtant, d'après les Écritures, il avait déjà une position exceptionnelle dans la hiérarchie céleste. Et il a voulu aller plus haut, il a voulu prendre la place de Jésus. Et à partir de ce moment-là, il nous est dit qu'il a été précipité. Vous pouvez relire Ésaïe 14, Ézéchiel 28. Et cette voix qui est implicitement en nous à cause de la nature pécheresse, parce qu'on a été contaminé par le péché, parce qu'on a en nous un orgueil dès notre naissance qui va plus ou moins se manifester, mais nous sommes tous orgueilleux par nature, tous pécheurs par nature. Il y a quelque chose, il y a une voie que le Seigneur a définitivement détruite. Il l'a clôturé définitivement, il a mis un énorme sens interdit, et tous ceux qui, lorsqu'ils sont à un point, peu importe où on est, veulent aller plus haut, le Seigneur dit, celui qui veut s'élever sera abaissé. Celui qui veut s'élever sera précipité. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Et le Seigneur Jésus inaugure une voie dans laquelle il va prendre le diable à contre-pied, une voie sur laquelle le diable ne peut pas le suivre. C'est-à-dire que, et c'est une voie sur laquelle nous-mêmes, nous ne pouvons pas accéder. Il faut suivre le chemin du Seigneur. Et le Seigneur, au lieu de permettre cette voie d'accès qui a été condamnée pour l'éternité, Jésus inaugure une voie nouvelle à tous ceux qui veulent être plus haut avec lui, il montre le chemin de l'abaissement, de l'humilité, du renoncement, de la mort à soi et du brisement. Et Jésus dit, celui qui sera abaissé sera éloigné. Il ouvre, il inaugure une voie nouvelle. Et ça fait partie des principes du royaume de Dieu, et on le retrouve partout dans la Bible. Il n'y a pas de sommet sans passer par une vallée. Il n'y a pas de pays promis sans désert. Ça n'existe pas. Il n'y a pas, de paix sans passer par des tempêtes. Jésus est en train de leur dire, il n'y aura pas de trône sans la croix. La gloire sans la tombe, ça n'existe pas. Parce que Jésus a inauguré une voie qui, humainement parlant, est complètement folle, qui va à l'encontre de l'ego humain et de l'orgueil qui a été trouvé dans le cœur de Satan dès la chute à l'origine. Et bien qu'ils aient compris qui est Jésus, ils ont compris son cœur, ils ont compris sa puissance. Mais le chemin par lequel Jésus va devoir passer, c'est-à-dire celui-là, personne n'a été abaissé comme Jésus. Et parce que personne n'a été abaissé comme lui, personne n'est élevé comme lui. Abaissé au plus bas, élevé au plus haut. C'est le seul chemin. Et Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix, qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive, celui qui voudra s'élever sera abaissé. Et celui qui s'abaissera sera élevé, parce que voilà la voie royale. Moi, Jésus, j'ai inauguré. Et pour l'instant, ce chemin échappe totalement. Et Pierre, qui est plein de bonne volonté, qui se dit, mais quelqu'un comme toi, Seigneur, tu ne peux pas être sur une croix. Ce sont les maudits qu'on met sur la croix. Il connaît un petit peu quand même l'ancienne alliance. Maudit est celui qui est pendu au bois. Donc Pierre dit, mais ça ne peut pas être toi, Seigneur, ce n'est pas possible. Et le diable, à ce moment-là, lui souffle, pensée, et par un biais d'affectif, de sentimentalisme destructeur, il veut essayer de faire dévier Jésus. Jésus sait très bien que derrière cette pensée purement humaine et sentimentale, il y a juste une tentation de l'ennemi pour essayer de le dévier de la croix. La croix, c'est le chemin par lequel Jésus doit accomplir son œuvre de salut, de pardon, de réconciliation, de guérison. Sans la croix, il n'y aura pas de disciples. Sans la croix, il n'y aura pas d'église. Sans la croix, Pierre, tu n'as pas de présent. C'est même pas que tu n'auras pas d'avenir, c'est que tu n'as même pas de présent. Sans la croix, il n'y a strictement rien. La croix, c'est le plan éternel du Dieu trinitaire. C'est le centre, c'est le cœur du message, pas seulement pour Jésus, mais aussi ensuite pour chaque disciple. Moi, je vais aller à la croix. Et ni toi, Pierre, qui pourtant est mon ami, ni tes pensées doucereuses, ni l'ennemi de ton âme, ni rien ne m'empêchera d'aller à la croix, parce que c'est pour cette heure que je suis venu, parce que c'est pour ça que je suis là. C'est ça ma mission, c'est la croix. Et tout de suite après, Jésus dit, je paraphrase, au fait, il faut que vous compreniez, la croix, elle n'est pas seulement pour moi. La croix, elle sera aussi pour ceux qui l'acceptent. Parce qu'il n'y a pas d'autre chemin. Parce que la croix, ce n'est pas seulement le plan éternel de Dieu pour Jésus, c'est aussi le plan pour chaque disciple. Ce n'est pas parce qu'il nous en veut ou parce qu'il nous veut du mal, c'est parce qu'il veut qu'on vive une vie libre, libre de nous-mêmes, libre des dérèglements de l'âme, libre des dérèglements du corps, une vie victorieuse. Très souvent, bien aimé, on s'est arrêté. Très souvent, on s'est arrêté à la croix pour Jésus. On considère souvent la croix, et c'est vrai, c'est juste incomplet, mais c'est vrai. On considère la croix comme le lieu où Jésus, par amour, par passion, est mort pour nous. On a très souvent, enfin j'espère que quand on prend la scène le dimanche, on pourrait la prendre d'autres jours. Hein. Et quand on est ensemble, qu'on prend la scène, qu'on commémore, J'espère que nos cœurs restent toujours sensibles, restent toujours bouleversés par la dimension de cet amour. J'espère qu'on ne s'habitue pas à l'idée que Jésus soit mort sur la croix pour nous. On a souvent, j'espère, une pensée profonde pour Jésus lors de la scène. On y pense peut-être plus ou moins souvent quand on a des péchés à se faire pardonner. Et là, on sait qu'on peut trouver auprès de lui le pardon pour nos fautes, pour nos péchés. Si quelqu'un a péché, dit Jean, première épître de Jean, il a un avocat auprès du Père. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et merci Seigneur, c'est tellement vrai. Et c'est vrai que dans nos milieux évangéliques, on a une excellente doctrine de la croix. Elle est juste incomplète, mais ce qu'on en a est excellent. Parce que oui, Jésus est le sacrifice parfait. Jésus est le souverain sacrificateur parfait, l'agneau sans défaut, sans tache, immolé pour nos péchés. On sait que le péché ne peut pas rester impuni, on sait que la justice de Dieu doit être assouvie. Alors on a tous les textes du Nouveau, de l'Ancien Testament, on peut faire des super parallèles, on peut construire des magnifiques messages, et combien c'est vrai, on voit que tout ce que la justice et la sainteté de Dieu exigeaient, eh bien son amour et sa grâce pour donner en Jésus. Extraordinaire, merci Seigneur. Jésus a payé la dette. Le pécheur qui est convaincu ensuite s'approche. On l'a fait, vous l'avez fait, je l'ai fait par la repentance et la foi. Je saisis, j'entre dans cette dimension. Merci Seigneur, quelle bonne nouvelle, quel pardon. Et ça va encore plus loin. Je vois que Jésus prend ma souillure. Il me donne sa sainteté. Il prend mon indignité. Il me rend la dignité. Il prend ma honte. Il me rend la dignité. Il prend mes haillons. Il me donne une robe blanche. Il prend ma condamnation, il me donne la liberté, sa mort me rend la vie, et on peut en parler, il prend ma culpabilité, il me rend mon innocence. Et on a tout comme ça. On a une excellente doctrine de la croix. Juste elle est incomplète. Parce que dès que Jésus a permis à ses disciples de réellement comprendre, dès qu'il a dit ce qu'il allait faire et comment il allait le faire, tout de suite après, il a dit, ça vous concerne aussi. Et oui, la croix, c'est bien plus que pour Jésus. C'est pas seulement la puissance de pardon, de salut, de guérison, de restauration. La croix, c'est aussi une puissance spirituelle en moi qui m'amène à mourir à moi-même, qui m'amène à renoncer à moi-même, à renoncer à mon ego, à renoncer à ma volonté propre. C'est une puissance de mort et aussi une puissance de vie. La croix est puissante pour me faire mourir à moi-même, mais pour me faire vivre aussi la vie de Dieu en moi. Il y a une identification, il y a une réalité spirituelle. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis maintenant dans la chair, dans ce corps, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et aujourd'hui, bien-aimé, quand un disciple, vous, moi, peu importe si nous ne sommes pas animés par l'esprit de la croix, quand nous n'avons pas plus de victoire que nous devrions en avoir dans nos vies, quand nous vivons encore avec les impressions, les sentiments, tout ce qu'on a décrit de nos états d'âme, sans être méchant, on a peut-être pris de la croix que ce qui nous arrangeait, vraiment. Et l'apôtre Paul montre que c'est indispensable de considérer, même de désirer, de vivre cette mort à soi. C'est un besoin vital. C'est un besoin vital. Frères et sœurs, il n'y a pas d'autre plan. Et puis, ce plan, il ne faut même pas que ça me fasse peur ou que ça me tire les traits à 8h25. C'est une bonne nouvelle. Ce que le Seigneur, en d'autres termes, dit à ses disciples, par la puissance de la croix et la puissance de l'Esprit en vous, il va vous libérer de vous-même. Parce que tu sais, Pierre, le plus gros problème, ce n'est pas Jacques et Jean. Le plus gros problème, c'est toi-même. Pourquoi est-ce que le Seigneur a montré ça tout de suite? Pourquoi il y a tant de textes qui parlent de ça dans le Nouveau Testament? C'est clair. Dans tous les textes, c'est clair. Ce qui m'empêche de vivre la vie de Dieu. Les démons, ils sont enchaînés. ils sont liés. Jésus, le Fils de Dieu, est venu afin de ramener à l'impuissance les œuvres du diable. Dans la vie de celui qui appartient à Jésus, dans la vie de celui qui croit, le diable aura juste le pouvoir qu'on voudra bien lui laisser si on écoute ses mensonges. Il a ramené à l'impuissance. Il a détruit les œuvres du diable. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui bloque? Celui qui est né de Dieu, dit Jean, se garde lui-même. Le malin ne le touche pas. Je devrais avoir une vie. C'est quoi le problème? Ben, le problème, c'est l'ego, c'est le moi. Le problème, c'est que c'est ma chair. Nature charnelle, vieil homme, vieille nature, vous avez compris, c'est la même chose. C'est la chair qui m'empêche de vivre la vie de Dieu. C'est ma nature, c'est mon ancienne nature qui empêche l'Esprit de Dieu, qui fait entrave à son action et à sa puissance. C'est ma chair qui est incapable d'aimer, c'est ma chair qui est incapable de patienter, c'est ma chair qui est impulsive, c'est ma chair qui a du mal à résister au péché, c'est ma chair qui a du mal à pardonner. La chair, c'est un potentiel. Autant l'Esprit de Dieu est un potentiel de vie illimité, extraordinaire, autant la nature charnelle, c'est aussi un potentiel, c'est un réservoir, une putréfaction de mort de façon générale. La chair ne produit qu'une seule chose, c'est la mort. On verra aussi plus tard que aux Corinthiens, l'apôtre Paul leur dit à maintes reprises, il leur dit, le problème, c'est que vous êtes charnel. Le problème, c'est que vous vivez de façon charnelle. Le problème, c'est que plusieurs fois, trois, quatre fois, rien que dans les deux premiers chapitres, le problème, c'est que vous êtes charnel. C'est le moi, c'est la chair qui m'empêche d'être la personne que Dieu veut que je sois. C'est aussi simple. Et dans toute la pensée du Nouveau Testament, la nature charnelle, la vieille nature, n'a qu'un seul destin, mourir. La mort à soi. Et si on ne comprend pas, et si on n'est pas pleinement participatif, actif avec l'Esprit de Dieu dans notre relation avec lui pour mourir à nous-mêmes. Si je ne suis pas dans ça, malheureusement, c'est l'âme et le corps qui vont continuer à imposer leur petite loi. Et ça fait les bonnes affaires du diable. Le diable n'est pas omniprésent, mais vous savez quoi, il n'a pas besoin d'être omniprésent. Parce qu'il y a un potentiel en chaque disciple qui lui fait son boulot, qui s'appelle la nature charnelle, qui s'appelle la vieille nature. Alors, à Dieu ne blesse, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Oh, vous savez, si le diable l'a dit à Jésus, il va me le dire à moi aussi. Hein. Quand je sens qu'il faut qu'à l'intérieur, je renonce, je me laisse entraîner dans la mort de Jésus. Vivre une vie plus excellente, il faut que j'accepte de descendre, de m'humilier pour vivre mieux. Il y a quelque chose en moi qui me dit, c'est pas juste, c'est pas normal, j'ai raison, il a tort, je peux pas me tromper, c'est forcément elle, parce que c'est toujours la faute de l'autre, on est bien d'accord. C'est pas possible, et on entend intérieurement, à Dieu ne plaise, ça peut pas m'arriver. Trois fois, Jésus a été tenté de descendre de la croix. Trois fois. Il a été tenté de ne pas y aller. Et trois fois, il a été tenté de descendre de la croix. Si vous me disiez bien, on fera attention dans Luc 23. Et le diable a invité toujours des bonnes excuses. On a aussi pour que, surtout, on reste comme on est, qu'on trouve que les autres sont pires que nous. Et vous voyez bien, mais à quel point ça nous fait du tort, parce qu'en réalité, c'est comme ça qu'en réalité, on tourne en rond dans les mêmes problèmes, dans les mêmes dérèglements, dans la même vie. L'apôtre Paul est clair. Notre vieil homme, Romains 6, 5 à 7, fait un parallèle aussi avec 2 Timothée. Notre vieil homme a été crucifié avec lui, même pensée. Celui qui est mort, dit Paul, celui qui est mort est libre du péché. Soit il va falloir faire une étude biblique sur l'abattement, une étude biblique sur la colère, une étude biblique sur la boutique, une étude biblique sur l'enjeu des alcools, une étude biblique sur les convoitises, les passions, là, tout ce que je vous ai montré. Ou alors, on comprend que le Seigneur a inventé quelque chose d'extraordinaire, qui s'appelle la mort à soi. Vous savez, un disciple qui est vraiment mort à lui-même, il n'y a pas de danger sur le lieu de travail. Tu sais, ma sœur, la plus belle chose qui puisse arriver à ton mari, c'est qu'il meure à lui-même. Parce qu'au boulot, il peut y avoir toutes les Adriana 42 ou je ne sais pas quel top modèle qui tourne autour de lui. Si ton mari est mort à lui-même, tu n'auras aucun problème. Le problème, ce ne sont pas les hommes qui tournent autour de ta femme, hein, mon frère. Ce n'est pas ça le problème. La logique de Dieu, c'est est-ce qu'on va passer notre vie à essayer de gérer, de dégommer, d'enlever tous les appâts? Puis alors le diable, ben lui, il ne vient pas dans la vie. Mon âme, elle en a naturellement, et mon corps a des appâts. Donc, soit il va falloir enlever tous les appâts. Mais le Seigneur, il y a une autre logique. Il dit, ben non, mais moi, je vais faire mourir le poisson. C'est ça l'idée. Parce qu'à partir du moment où le poisson est mort, vous pouvez lancer tous les appâts. Vous comprenez? Donc, quelqu'un qui est mort à lui-même, vous savez ce qui est bien avec un mort? C'est que quand on le pique, il ne dit pas aïe. C'est pas drôle. Quand on le pique, il ne réagit pas parce qu'il est libre, parce qu'il est mort à la colère, parce qu'il est mort à la rancune, parce qu'il est mort à lui-même, parce qu'il est libre de tous les dérèglements. Et puis, quand je suis un mort et mort à lui-même, il n'est pas en train de se demander comment il va faire pour augmenter sa dose de patience avec cette personne insupportable dans les mois qui viennent, si elle ne change pas. Non, Seigneur, je t'en prie, change-le, 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 j'en peux plus, change-la, change-la. Sauf que, il ne change pas, elle ne changera aussi. Pas aussi vite que tu veux. C'est compliqué, alors comment je vais faire pour être patient? Je prie pour que Dieu la change, mais elle ne change pas. Et moi, je suis là, je suis dans une limite de patience, et ça m'agace, et ça m'énerve, et j'ai des mauvaises pensées, et puis je cherche des échappatoires, et comment je vais faire pour être patient? Ben, si tu meurs à toi-même, c'est le fruit de l'esprit, tu es patient. Je ne fais pas des efforts pour être patient. Par l'esprit, nous sommes patients. Comment je vais faire? Comment tu vas faire sur ton lieu de travail pour résister au péché, pour gérer les tentations? Il n'y a pas à gérer le péché. Il n'y a pas à gérer les tentations. Celui qui est mort est libre du péché. Ouais, merci Seigneur. Et c'est une mort en réalité. C'est pour ça que ce message, même s'il est dur en apparence, en réalité est une excellente nouvelle parce que c'est une mort intérieure qui est libératrice. Celui qui accepte de mourir à lui-même ne mourra plus jamais dans les circonstances, ne mourra plus jamais dans les critiques, ne mourra plus jamais dans l'amertume, ne mourra plus dans ses blessures, ses inquiétudes, ses problèmes, ses conflits, son orgueil, ses conflits, son ego, etc. Mais il vit la puissance de la croix. Cette parole est certaine, c'est ma conclusion, 2 Timothée 2,11. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts, et l'apôtre Paul, il n'est pas en train de parler de la mort au sens où c'est terminé, je suis au ciel. Ce serait trop stupide. C'est évident que je suis mort sur cette terre et plus tenté au ciel. Il parle de cette mort à soi. C'est toute la logique de ces écrits. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons, nous avons une qualité de vie, la Zoé, une qualité de vie présente, pas seulement éternelle. Nous vivrons aussi avec lui. Bien sûr, ça concerne la dimension, la temporalité présente. C'est une dimension, une qualité de vie qui jaillit de nous. Chaque fois qu'on refuse de mourir à nous-mêmes, on se prive de la vie de Dieu. Chaque fois qu'on accepte de mourir à soi, on découvre une dimension de vie qui jaillit derrière. C'est le sens profond de la croix, bien-aimé, c'est ma conclusion. La croix, ce n'est pas seulement au départ de ma conversion. La croix, ce n'est pas seulement pour Jésus. La croix, ce n'est pas seulement pour me repentir. La croix, c'est bien. Si j'ai été amené à l'existence par la puissance de la croix, je suis amené aussi à vivre une vie chrétienne, une vie par l'esprit, dans l'esprit de la croix. C'était la mort à soi pour vivre la dimension du Saint-Esprit Au moins, quand on vit cette mort à nous-mêmes et que du coup l'esprit peut vivre librement en nous, merci Seigneur, tous ces attributs habitent naturellement en nous, avec lui. Là, j'ai pas besoin de faire d'efforts. Hein. Je suis pas en colère. Je suis pas en colère. J'ai pas besoin de m'énerver. Je ne fais pas d'efforts. Je suis pas en colère. J'aime. Je peux être patient, je peux être en paix, envers et contre tout. Je peux être profondément joyeux, sans être aveugle sur ce qui a besoin de progrès dans l'Église. Je peux être profondément joyeux, je peux être paisible, je peux être dans la compassion. J'ai la capacité de mener une vie sainte, sans faire d'efforts. Merci Seigneur. L'Esprit de Dieu reproduit en moi sa sainteté. Et bien, voyez, bien aimé, cette marque par l'Esprit, c'est la vie chrétienne normale. C'est la vie chrétienne libre, victorieuse. Il n'y en a pas d'autre. C'est la seule que Jésus a instaurée. C'est la seule que les apôtres ont développée et défendue dans leurs épîtres. La vie chrétienne normale, c'est la mort à soi et la marche par l'esprit. Amen. Soyez bénis. On se recueille un instant, s'il vous plaît, pour clôturer ces moments. Merci, les frères.